qu'elle était montée à bord d'un avion. Le pilote avait décidé de foncer droit dans une tornade. Et puis prendre l'avion aurait forcé son père à se lever à 3h du matin et à faire 150 km de route pour venir la chercher à Mobile, le tout avant d'enchaîner sur une journée de travail. Il avait 72 ans, elle ne pouvait plus lui imposer ça. Elle était heureuse de sa décision. Les trains avaient changé depuis son enfance et cette expérience inédite l'amusait. Un employé de la compagnie ferroviaire apparaissait, tel un gros génie, dès qu'elle appuyait sur un bouton. Un petit lavabo escamotable en acier brossé surgissait à volonté et il y avait un cabinet de toilette sur lequel on pouvait reposer les pieds. Elle avait résolu de ne pas se laisser intimider par les diverses mises en garde placardées un peu partout dans le compartiment, ou la chambrette, comme ils appelaient ça. Mais quand elle était allée se coucher, la veille, elle s'était débrouillée pour se retrouver coincée dans sa couchette rabattable parce qu'elle avait omis de pousser ce levier vers le bas et le contrôleur avait dû venir la tirer de cette fâcheuse posture, ce qui l'avait mise dans un certain embarras, dans la mesure où elle avait pour habitude de ne dormir qu'en haut de pyjama. Par chance, il était justement en train de patrouiller dans les coursives au moment où le piège s'était refermé sur elle. « Je vais vous sortir de là », dit-il en l'entendant cogner des poings contre la paroi. « Non, non, je vous en prie », répondit-elle. « Dites-moi simplement comment m'y prendre. » « Je pourrais vous aider en tournant le dos », dit-il. Et c'est ce qu'il fit. À son réveil ce matin-là, le train entrait en cahotant dans les faubourgs d'Atlanta, mais obéissant à une autre instruction affichée dans le compartiment, elle resta au lit jusqu'à ce qu'on arrive en vue de College Park. Quand vint le moment de s'habiller, elle mit sa tenue de mécambe. Pantalon gris, chemisier noir sans manches, soquette blanche et mocassin blanc. Il restait 4 heures de voyage, mais elle entendait d'ici le petit reniflement désapprobateur de sa tante. Alors qu'elle attaquait sa 4e tasse de café, le Crescent Limited fit retentir son sifflet, telle une oie géante, pour saluer le train qui arrivait en sens inverse, puis franchit la frontière de l'Alabama en traversant la Chattahoochee à grand fracas. La Chattahoochee est large, plate et boueuse. La rivière était basse aujourd'hui. Une barre de sable jaune en avait réduit le flot à un faible ruissellement. Peut-être chante-t-elle quand vient l'hiver, songea-t-elle. Impossible de me souvenir d'un seul vers de ce poème. Tandis que j'allais, jouant de mon joyeux flutio par les vallées? Non. S'adressait-il à une sauvagine ou à une sauvageonne? Elle s'efforça de réprimer un élan coutumier d'hilarité en pensant que le poète Sidney Lanier avait dû ressembler à son cousin depuis longtemps disparu, Joshua Singleton St. Clair, dont le propre territoire littéraire de prédilection s'étendait de la Black Belt à Bayou Labattre. La tante de Jean Louise érigeait souvent cousin Joshua en inébranlable parangon de la gloire familiale. C'était un homme d'une stature splendide, c'était un poète. Il avait été fauché à la fleur de l'âge et Jean Louise aurait été bien avisée de garder à l'esprit qu'il avait fait honneur à son nom. Ses portraits, de fait, rendaient justice à la famille. Cousin Joshua ressemblait à un Algernon Swinburne grincheux. Jean Louise sourit en se rappelant la fin de l'histoire telle que la lui avait racontée son père. Cousin Joshua avait été fauché, certes, mais par les milices de César plutôt que par la main du Seigneur. À l'université, cousin Joshua travaillait trop dur et réfléchissait trop souvent. Il avait tant et si bien étudié le 19e siècle qu'il semblait y avoir sauté à pieds joints. Il se complaisait à porter un Macfarlane et des bottes de cavalerie qu'il s'était fait faire sur mesure par un maréchal ferrant. Le destin de cousin Joshua fut brisé net par les autorités qui l'arrêtèrent pour avoir tiré sur le président de l'université, lequel, à son humble avis, ne valait guère plus qu'un expert préposé à l'assainissement des égouts. Ce qui n'était sans doute pas faux, mais justifiait difficilement une attaque à main armée. De rondelettes sommes d'argent permirent à cousin Joshua de se soustraire à la justice et de trouver refuge dans un asile d'aliénés où il vécut le restant de ses jours. Il y passait pour quelqu'un de raisonnable en tout point, sauf si l'on avait le malheur de prononcer le nom du président.